France Culture.
Bonjour le Book Club et bonjour Éric Vuillard. J'avoue que je n'attendais pas forcément Éric Vuillard sur ce genre de thème et j'ai été ravie de le retrouver avec l'histoire de Billy the Kid. Il faut que vous sachiez qu'avant toute chose, on a vraiment l'impression de se retrouver dans le Far West. On sent la poussière, on sent la terre, on sent le sang.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Les vies subissent l'attraction du mythe aujourd'hui dans votre book club et le narrateur du dernier roman d'Éric Vuillard présente les États-Unis comme une colonie établie à la va-vite sur des marécages. Dans un de ses livres brefs et denses dont il a l'habitude et le secret, le romancier pousse la porte à laquelle s'est arrêtée l'histoire officielle pour en écrire une autre, c'est-à-dire peut-être une parmi d'autres. Une histoire de Billy the Kid et de tous les orphelins brigands qui accompagnent son errance, laquelle n'a été narrée que par son assassin. On est où, on est quand, on rôde à la fin du 19e siècle. Guerre du comté de Lincoln, les malfrats insultent les maires et il y a pas mal de sang qui coule. Histoire américaine, histoire de nos fictions et enfance perdue aujourd'hui. Éric Vuillard est l'invité de votre book club pour son dernier livre. Ensuite, et comme chaque jour, on écoutera les livres là où ça chante pour le grand jeu des pages musicales, grâce à vous. Et on est ensemble pour une heure. Bienvenue à toutes et à tous dans le book club. Bonjour Éric Vuillard.
Bonjour.
Les Orphelins, une histoire de Billy the Kid apparue aux éditions Actes Sud. C'est la raison de notre invitation. On est ravis de vous recevoir ici dans le Book Club. Vous aviez été notre invité au micro de Mathilde Wagman pour évoquer la poésie de Thierry Metz. J'invite nos auditeurs et auditrices à vous réécouter dans cet exercice. Mais vous n'aviez donc alors pas pu répondre à ce qu'on appelle le questionnaire lecture, à savoir une sorte de portrait de nos invités, dans le lien qu'ils entretiennent avec les livres qu'ils ont ou pas rencontrés sur leur chemin. Il y a quelque chose de l'enfance, on y viendra, dans Les Orphelins, dans Billy the Kid, quelque chose même de la voix de l'enfance difficile à retrouver, inaudible, difficile à récupérer. Quel était le lien entre enfance et lecture pour vous, Éric Vuillard?
Alors, il y a un très beau livre d'Aragon qui s'appelle « Je n'ai jamais appris à écrire » ou les équipites qui, d'une certaine façon, est un livre où Aragon, comme toujours, nous prend un peu à contre-pied, nous raconte qu'il a appris à lire, mais pas à écrire. Mmh. Qu'ensuite, il dictait donc à ses tantes ses propres histoires. Ce qui est une façon d'insister, au fond, sur le fait que la lecture est fondatrice, pas seulement pour les écrivains, mais d'ailleurs pour tous ceux qui savent lire et écrire, avant le fait, d'une certaine manière, d'écrire. Alors, j'ai le souvenir, donc, dans la bibliothèque de mes parents, qui n'était pas une grande bibliothèque, mais qui était juste à côté de ma chambre. Je sortais, il y avait la porte d'entrée de la maison, et de l'autre côté, la bibliothèque, d'avoir erré un peu dans la bibliothèque, où il y avait des livres, surtout que ma mère avait eu à l'école, des classiques Larousse. Et il y avait, par exemple, des choses qui me paraissaient très énigmatiques, comme les oraisons de Bossuet, les maximes de La Rochefoucauld.
C'est beau, ouais.
Voilà, et j'ai eu, alors, le sentiment, un peu, ce que raconte très bien Bergougnou dans ses entretiens ou ses livres, de m'être dit qu'une vérité, sans doute, que les adultes nous dissimulaient, peut-être, ou la société nous
derrière ces titres,
voilà, était cachée dans les livres, en tout cas. Voilà. Donc, il y a eu comme ça une...
Mais intuition nourrie par quoi? L'intuition qu'elle était cachée, la vérité?
Par le fait d'abord que ceux qui nous apprenaient à partir de livres, que donc le savoir venait des livres, et que ces livres-là étaient non pas du tout interdits aux enfants, mais leur semblaient inaccessibles, au fond, et que... Alors je me souviens avoir lu, puisqu'on nous avait fait lire Le Malade Imaginaire de Molière, donc j'avais lu Les Précieuses Ridicules, et j'avais très peu compris, au fond, ce qui se passait, et donc eu le sentiment que quelque chose m'échappait, et j'avais envie de savoir ce qu'était cette chose.
Mais est-ce que, du coup, ça faisait d'emblée des livres un territoire... Alors, des livres, aka le savoir, un territoire désirable? Parce que inaccessible, du coup?
Alors, peut-être, le problème est qu'on reconstruit, évidemment, toujours a posteriori tellement ces choses. Je serais bien en mal de dire... Je sais que j'ai lu dans l'enfance, et puis par moments j'ai dû m'arrêter, lire moins, et puis reprendre. En tout cas, la relation au livre s'est faite. Le souvenir que j'en ai, c'est sans doute ça. Le souvenir qu'il y avait quelque chose d'énigmatique dans ces titres qui semblaient être si valorisés par les adultes, puisqu'ils faisaient partie de petites collections sans images, vous voyez, en quelque sorte froides en apparence.
Alors justement, puisque vous précisez le sans images, qu'il y a des images dans votre livre à vous, et que vous êtes par ailleurs concerné, Éric Vuillard, votre votre littérature, elle est concernée par les images, celles qu'on a et celles qui manquent. Vous diriez que vous avez eu un rapport aux images par les livres ? Vous avez regardé des livres d'images ?
Alors oui, il se trouve que il y avait ces livres-ci, et puis il y avait une autre petite collection de livres sur la peinture. Il y en avait peut-être une quinzaine, pas beaucoup, mais c'était les grands peintres, Velázquez, Goya, etc. Et je me souviens enfant les avoir regardés, enfin comme beaucoup d'enfants feuillettes, hein, j'étais pas particulièrement un enfant savant, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais je les feuilletais par curiosité, par moment, enfin j'y passais pas non plus ma vie, je faisais d'autres choses, pousser des haricots dans du coton sur les radiateurs, enfin voilà. Mais je me souviens les avoir regardés et avoir été étonné. Alors c'est reformulé aujourd'hui, bien sûr, mais par exemple, chez Velázquez, je me demandais pourquoi un peintre peignait ce genre de motif. Pourquoi c'est... Alors, je comprenais bien qu'il fallait peindre les rois, parce qu'ils étaient sans doute, je ne l'aurais pas formulé ainsi, mais les commanditaires, mais vous voyez, les Habsbourg sont quand même assez ingrats physiquement. Je me demandais pourquoi ils avaient accepté même de se faire peindre de cette manière. Enfin, je trouvais ça étrange, ces sujets-là. Je comprenais mieux, en tout cas, j'ai le sentiment d'avoir mieux compris, peut-être, une peinture plus tardive de Goya, qui était plus cauchemardesque, qui au moins disait quelque chose de plus direct à l'enfant que j'étais. Mais voilà, l'énigme de la peinture venait souvent de cette peinture, finalement, des grands. Voilà.
Qu'est-ce qu'ils faisaient là, ces livres de peinture, dans la bibliothèque ?
C'était des petits livres un petit peu... ça devait être des livres de Skira, des petits formats. C'était un petit peu comme les classiques Larousse. Il y en avait une quinzaine, vous voyez, ce que des gens peuvent avoir avec les grands peintres, les plus célèbres de l'histoire de la peinture. Vous voyez, il y avait quelques peintres de la Renaissance, deux ou trois, trois, quatre peintres modernes, peut-être Soutine, en fait, etc. Et puis, ce qui était aussi assez beau, assez étrange, c'est les différences, au fond, à la fois dans ces images stylistique et de sujet aussi. C'est-à-dire, vous voyez, entre la chambre de Van Gogh et Philippe II d'Espagne, il y a un abîme qui est difficile de combler.
Et les cauchemars de Goya, et les chiens, voilà. et les visions noires de Goya, en effet. Finalement, jusqu'à maintenant, vous décrivez un enfant lecteur, Éric Vuillard, parce que c'est là, parce que c'est dans le couloir, et que ça attire votre curiosité. Est-ce que si on avance un petit peu dans votre parcours, on vous trouve vraiment attrapé par un texte ? Et ce serait quoi ?
Oui, alors c'est peut-être aussi...
Reconstruit.
Oui, enfin, les orphelins, en tout cas, qui me, a posteriori, une fois le livre terminé et que j'y réfléchis, m'appellent vers ce texte. Mais enfin, c'est quelqu'un qui a beaucoup compté pour moi. C'est François Villon, que j'ai dû lire, entre 14 et 15 ans, quelque chose comme ça, étudié à l'école, sûrement. Et avec ce... ce sentiment pour la première fois éprouvé, et qui, je crois, est juste dans l'histoire même de la littérature française. Je crois que c'est la première fois qu'on l'entend à ce point-là, c'est-à-dire le sentiment d'entendre une intimité, quelqu'un qui nous parle directement, qui s'adresse à nous, disons, sans les ornements de la littérature, sans les artifices, au fond. Quelque chose de beaucoup plus murmuré ou mêlé, c'est-à-dire un langage, à la fois une poésie soutenue, mais où à laquelle se mêle l'argot et qui nous raconte des choses surtout véritables. Et puis cette façon de Villon, Sigi, un pauvre écolier qui fut nommé François Villon, dans quelque chose de très simple.
La vie, un peu plus la vie.
Oui, la vie, et puis une sorte de franchise, d'humour aussi, et puis même de dureté, puisqu'il nous raconte, enfin, l'un de ses poèmes les plus célèbres, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la balade des pendus, sont tout de même des morts qui nous parlent, qui s'adressent à nous, et puis il nous épargne pas, la chair est rongée, les yeux sont aussi piqués que des à-coudre, enfin, ce sont des images très fortes et très saisissantes, et puis ce qui m'y a fait ressonger, là, récemment, avec le livre, c'est qu'au fond, je me suis dit, c'est étrange, mais dans notre littérature, la première fois que quelqu'un s'adresse à nous sur ce ton d'égalité, eh bien, il se trouve que c'est un petit criminel, puisque Villon était un petit criminel et un voleur, donc comme Billy.
Ah oui, marrant. Billy the Kid, dont vous faites une des histoires possibles dans votre livre Les Orphelins. Et moi, alors probablement parce que j'avais dû l'entendre ou le lire ailleurs, une sorte de rencontre aussi avec la poésie rimbaldienne, j'ai presque vu le dormeur du Val dans une des scènes de Billy the Kid, peut-être retravaillé, revisité. Ça arrive à quel moment, votre rencontre avec la littérature d'Arthur Rimbaud ? Ses poèmes et sa prose.
Je pense à peu près au même moment que Villon. Alors, comment dire, l'avantage quand on est très jeune et qu'on est un petit peu, qu'on n'est pas très sédentaire, évidemment, l'avantage de la poésie en général, c'est que c'est pas très lourd. Vous voyez, c'est pas comme la comédie humaine ou la recherche du temps perdu. Il suffit d'avoir un livre en poche et puis ça a une densité. Voilà. Et donc, du coup, il se trouve qu'en plus, leur œuvre à eux est une œuvre brève. Donc, on peut emporter vraiment avec un. On a 150 pages, on a presque tout, au fond. Donc, oui, c'est à peu près à la même époque, peut-être un petit peu plus tard. Et au fond, là encore, j'y repensais récemment, puisque son premier poème, enfin référencé dans ses œuvres, s'appelle Les Orphelins.
Ah oui, c'est vrai, Les Orphelins. Oui. Deux, d'ailleurs.
Il est question plusieurs fois d'orphelins dans ses poèmes, mais là, c'est le poème lui-même. Et puis, ce sont donc des c'est un orphelinat, au fond, où des enfants... Là, ça doit être le soir de Noël, si je me souviens bien, quelque chose de ce genre. Il y a un petit côté dickensien.
Vous dites que vous n'aviez pas de jeunesse sédentaire, juste parce que vous étiez un jeune homme et que vous bougiez beaucoup, ou vous avez particulièrement bougé, Éric Vuillard ?
Bon, j'ai particulièrement bougé quand même, oui. J'ai fait beaucoup d'autostop, enfin je me suis
promené
à travers l'Europe. Voilà.
Intéressant, parce qu'il est aussi énormément question du vagabondage, de l'errance, de déplacement dans Les Orphelins. Il me semble que c'est vraiment un livre là-dessus, ouais, aussi.
Oui, tout à fait. C'est sans doute une des choses qui m'a attiré vers Billy. Et puis aussi le sentiment, comment dire, les époques changent. Vous voyez, bon, moi, quand j'étais jeune, les années 70 étaient terminées depuis longtemps. Mais enfin, c'était un peu la queue de comète. On voyait encore des gens se promener sur les routes, des jeunes. Bon, c'est une chose qui a cessé. Mais c'est pas seulement une activité. Elle s'intègre, au fond, dans une atmosphère sociale et politique très différente, où des formes de marginalité, d'insolence, de rapports plus réfractaires à la société existaient et se sont aujourd'hui dissipés en partie.
Oui, on pratiquait l'autostop presque comme une pratique de vie, non seulement pour se déplacer, mais pour rencontrer des gens, pour parler, pour tout simplement être au sens propre comme au sens figuré au bord de la route. Il y a quelque chose presque d'un mode de vie.
Alors c'était aussi un manque d'argent, il faut bien l'admettre. Et c'était un manque d'argent, c'était aussi un peu dangereux quand même, il faut bien le dire aussi, quand on est jeune. Puis c'est long, parfois on attend beaucoup, il peut faire froid ou trop chaud ou pleuvoir, enfin bon, ça n'est pas qu'agréable, mais effectivement on croise des gens, il y a un côté hasardeux en plus, on ne sait pas du tout quand on va arriver, et parfois pas exactement où on va arriver, donc voilà, ça avait un certain charme quand même.
Si on poursuit un peu votre vie de lecteur, Éric Vuillard, et qu'on saute, donc vous avez au passage quand même cité Balzac et Proust, que vous n'apportiez pas dans votre poche, mais si on saute un peu plus loin, est-ce qu'on vous retrouve en compagnie d'autres autrices ou auteurs importants pour vous ?
Ben, en fait, surtout, j'ai l'impression que plus j'avance en âge, si je puis dire, plus... C'est un ensemble, un mouvement en fait général qui me touche, m'intéresse, me perturbe. C'est-à-dire la littérature elle-même, avec beaucoup d'auteurs très différents qui reviennent, que je relis. Bon, ça peut être ceux que je citais, ou Hugo, ou Tolstoï, ou Joyce. Enfin, Jane Austen, Virginia Woolf, Richard Wright. Enfin, je pourrais en citer. Je pense que tous les lecteurs ou écrivains sont dans ce cas-là. Et aujourd'hui, au fond, ce qui m'intéresse, c'est davantage d'essayer de comprendre ce courant, qu'est-ce que c'est, au fond, qu'on appelle parfois un peu trop vite la fiction, ou le roman, ou la poésie, dans ces catégories qui vont très bien, je préfère ça, fiction et non-fiction, mais des catégories aujourd'hui, à mon avis, beaucoup plus idéologiques, mais malgré tout, voilà, de quoi s'agit-il ? C'est ça, je crois,
qui vous fait penser, quoi, comme un...
Oui, enfin chaque livre est un peu aussi, entre autres, l'occasion d'essayer d'y réfléchir, de savoir, en m'y attelant, en écrivant, qu'est-ce que je suis en train de faire, puisque... Comment dire, chaque époque tient un discours d'abord sur l'écriture et chaque écrivain tente peut-être, dans l'anfractuosité qui est la sienne, d'élaborer le sien le plus juste possible, qui correspond à sa pratique. Enfin, et donc, moi, le sentiment que j'ai et ce qui m'intéresse, c'est d'essayer en lisant ou en relisant les livres, de voir comment chacun finalement s'aventure à travers les mots, à rechercher une vérité qu'on peut fixer par moment, puisqu'il y a des phrases, des sentences, des paragraphes, et même peut-être des passages hantés de certains livres. Je citais Victor Hugo, le début des Misérables, avec Monseigneur Myriel, enfin le célèbre passage où il donne les chandeliers à Jean Valjean, est un passage dont la beauté, à la fois mystérieuse en un certain sens, puisque c'est comme au-delà de la générosité.
Donc on rappelle qu'il s'est fait piquer ses chandeliers, mais que non seulement devant la personne qui vient accuser la police. Non seulement il ne dénonce pas Jean Valjean, mais il lui propose de partir avec un autre objet de la maison.
Oui, il est parti avec l'argenterie, il lui donne les chandeliers. Ouais. Et donc, on a là un moment assez, dans le roman en soi, enfin, qui a une profondeur au fond inépuisable. Il est difficile de dresser les limites ou les coordonnées morales de ce passage et ses coordonnées littéraires. Donc en le relisant avec le temps, ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de voir d'une certaine façon comment Hugo s'est précipité là-dedans.
Mais du coup, ce qui vous intéresse pour bien vous comprendre, c'est à la fois comment Hugo se précipite dans, on va dire, l'outil de connaissance ou de réflexion ou d'écriture que serait le roman, mais aussi donc la pensée qui fabrique à ce moment-là, mais aussi celle que vous êtes en mesure de fabriquer, vous, en 2026, en lisant avec les outils qui sont les vôtres en 2026, Éric Vuillard.
Oui. Alors d'ailleurs, ce n'est pas qu'une pensée, c'est aussi un outil très sensible. Je pense au Misérable, le moment où il attrape la main de... où Jean Valjean attrape la main de Cosette, elle a ce seau, vous savez, très froid, elle est chez les Thénardier, et dans la nuit, il attrape le seau. On a l'impression, je pense, de tous sentir à ce moment-là, dans le passage, cette main attraper le seau pour nous, ou attraper la nôtre. Mais oui, ça m'aide à penser puisque dans l'écriture comme dans la parole, on est pris dans l'élan, au fond. Donc on réfléchit, c'est curieux la réflexion, au fond ça nous échappe en partie, d'où peut-être parfois quand les gens sont à la radio, quand on y est tous d'ailleurs.
Absolument, on en fait l'expérience tous les jours.
Oui, on le fait en ce moment d'ailleurs, on retient quelque chose et on livre autre chose, on ne sait pas bien.
C'est d'ailleurs pour ça, mis à part, que je ne fais jamais de scission entre la pensée et le sensible. Pour moi, précisément parce qu'on s'adonne tous les jours à la radio avec le direct et avec la possibilité d'y risquer et sa parole, et son regard, et ses mots, et sa pensée, qu'il y a de toute façon une expérience sensible qui est prise là-dedans.
Oui, et puis il y a quelque chose comme, je sais pas, qui nous précède et qu'on sait pas, et puis quelque chose au contraire qui nous excède et qui...
Et qu'on sait pas non plus.
Voilà, et qu'on sait pas non plus. Et entre les deux, eh bien c'est ça, la parole ou l'écriture, ça se déploie à partir d'un sujet qui a quand même lui-même des connaissances et des idées, toujours évidemment sur la vie, des opinions, et c'est ça qui est intéressant dans l'écriture, puisqu'en dépit du fait qu'on puisse la corriger, ce qui est moins le cas de la parole, on peut toujours revenir, mais c'est autre chose, malgré et tout, on ne peut pas tout à fait revenir dans l'écriture non plus. C'est-à-dire, je crois que quand on a atteint, par la fermeté d'une phrase, une vérité qu'on cherchait, plus ou moins, eh bien, on ne peut plus se dédire, si c'est en tout cas ça qu'on cherche dans l'écriture, et pas simplement de l'ornement.
On n'a pas mentionné le fait que vous avez fait des études, Éric Vuillard, et notamment sous la direction de Jacques Derrida. Est-ce que vous êtes un lecteur de ces livres, de ces séminaires que, par exemple, publie et republie régulièrement Le Seuil? Est-ce que c'est, au-delà de la relation qui a pu être la vôtre à ce moment-là dans votre parcours, une pensée qui vous intéresse?
Oui, tout à fait. Enfin, d'ailleurs, la philosophie en général. Et oui, c'est quelqu'un qui avait une écriture assez très singulière, même on peut dire sinueuse, qui semble différer un petit peu sans cesse.
Oui, j'y pensais là parce que vous parliez de la possibilité de revenir, de se dédire. Lire Derrida, c'est précisément faire l'expérience d'un mouvement permanent de l'écriture et de la pensée. On a l'impression que lui, il peut appuyer sur play, rewind et avance rapide, quoi.
Oui, ça me fait penser là, comme ça, subitement, étrangement, à Louons maintenant les grands hommes de Hadji. C'est pourtant très différent, mais chez Hadji, il y a un petit peu le même mouvement. C'est un livre, il enquête donc sur ces fermiers de l'Alabama, et sans doute parce qu'évidemment, comme il n'est pas lui-même fermier, qu'il n'est pas pauvre comme eux, il est pris de tout un tas de scrupules. Si bien qu'il ne cesse de modifier sa méthode, de revenir en arrière, de lâcher même toute méthode, de faire l'aveu de son attirance presque sexuelle pour une jeune fermière, si je me souviens bien. Enfin, il tente une forme de franchise abrupte, et il y avait chez Derrida comme ça des repentirs incessants d'une écriture, et donc oui, c'est une écriture tout à fait intéressante.
On va parler de votre livre, votre nouveau livre, juste après cette chanson interprétée par Benjamin Biolay et Chiara Mastroianni. C'est un petit mélange entre Bonnie and Clyde et un western parisien des années 2000. Écoutez la dernière strophe. Ils ont mis des affiches de partout. Ma fiche signalétique est sur les packs de lait, mon visage, mon anorak. Je suis une image. Billy Bob a raison. Les gens, c'est tous des cons.
J'ai baissé la vitre, allumé de suite un loup. pris la fuite toute blinde. J'ai mis des cassettes, Billy Bob a raison. Les gens, c'est tous des cons. J'ai mâché de la gomme à la Knoberge. Il faut que je dorme, qu'un jour j'émerge dans une suite en bord de berge. J'ai mis des cassettes, Billy Bob a raison. Les gens, c'est tous des cons. Il neige un peu sur les platanes, ainsi que sur le macadam. Des flocons lourds comme un été. Si Billy pouvait m'épouser, les gens m'appelleraient madame. Billy Bob a raison. Les gens, c'est tous des cons. Ils ont mis des affiches de partout, ma fiche signé l'éthique et sur les parcs. De l'émou visage, mon anorak. Je suis une image. Billy Bob a raison. Les gens, c'est tous des cons. Billy Bob a raison. Les gens, c'est tous des cons. Les gens, c'est tous des cons.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Aujourd'hui dans votre Book Club, les portes se referment, les récits s'arrêtent, la véritable histoire se déroule à huis clos, tandis que l'histoire officielle patiente sur le paillasson. On ignore les dialogues savoureux, les documents brûlent dans les cendriers, on imagine. Cet extrait de votre nouveau livre, Éric Vuillard, sonne comme un manifeste. Vous imaginez donc, quand il le faut, un peu de la vie de celui que l'on surnomme Billy the Kid, orphelin parmi les orphelins, qui participèrent à la conquête, cet autre nom de la colonisation, par le massacre et l'expropriation. À chaque fois que quelqu'un parle de Billy, c'est pour lui faire dire ou accomplir autre chose, écrivez-vous Éric Vuillard, vous ne faites probablement pas exception, en continuant de convoquer, je cite, « chacune des vies en rameaux solitaires parmi les branches innombrables de l'humanité ». Les orphelins, c'est le titre, une histoire de Billy the Kid, c'est le sous-titre, et tout cela apparu aux éditions Actes Sud. Au tout début de l'émission, j'ai dit le narrateur de ce nouveau livre. Et je crois que vous avez soulevé l'épaule, ou en tout cas vous avez noté un truc, parce qu'en fait, c'est pas tellement, on va dire, une instance qui pourrait être le narrateur. Ce serait qui parle dans Les Orphelins, Éric Vuillard ?
J'ai l'impression, j'évoquais Villon tout à l'heure, et le côté très direct de sa poésie, que d'une certaine façon, la littérature, depuis en tout cas qu'elle est davantage libre de se déployer comme elle le souhaite, c'est-à-dire en gros depuis la Révolution française, auparavant elle était quand même, vous voyez, les oraisons de Bossuet étaient quand même très ordonnées, au fond j'ai l'impression qu'à ce moment-là, elle tente d'abord de nous dire quelque chose sur le pouvoir lui-même. Mmh. Et surtout qu'elle tente de s'adresser à nous de nouveau beaucoup plus directement. Puisque Villon, c'est une sorte de toute petite parenthèse dans le temps. D'ailleurs, une parenthèse fragile. Il meurt on ne sait où, il est pourchassé, enfermé, etc. Bon. Et puis c'est une poésie en quelque sorte chantée, récitée, presque non écrite au départ, qui se transmet de cette façon-là. Donc... J'ai le sentiment que ce qu'on appelle, enfin, il y a eu évidemment dans les années 70 toute une discussion autour de l'auteur qui peut-être aujourd'hui fausse encore la vision qu'on peut avoir de ces choses. J'ai l'impression que c'est l'auteur qui apparaît progressivement, non pas l'auteur en tant qu'instance, mais à travers l'auteur, soi, essayer de parler le plus directement possible. On le voit avec, je sais pas, Annie Ernaux, par exemple.
Tout simplement, en fait.
Oui, oui. c'est-à-dire, quand dans mes livres, le jeu est là, c'est une chose qui est... comme emporté par la crue et que j'ai laissé. Ça n'est pas quelque chose que je rajoute après, ça n'est pas une idée que je me fais de la narration. C'est que je tâche d'abandonner au passage, quand je le fais sans le vouloir, en tout cas, des traces de mon point de vue, de mon existence dans la narration, et non pas de... J'essaie de ne pas m'effacer, au contraire, de ne pas créer une nouvelle fiction qui serait seule d'une sorte d'omnipotence invisible.
Je disais aussi en introduction que c'est encore un livre bref, dense. Je dis encore parce que c'est quelque chose qu'on a déjà fait, dont on a déjà fait l'expérience en vous lisant, Éric Vuillard. Mais j'insiste sur la densité qui laisse entrevoir du temps. Quelque chose qui serait ou bien de la maturation, ou bien une capacité comme ça de se saisir de quelque chose qu'on a compris. Vous disiez, une fois qu'on a réussi avec une phrase à attraper quelque chose qu'on pense, ben c'est là maintenant. Vous avez mis combien de temps pour écrire Les Orphelins ? Ou peut-être ça témoigne de combien de temps ?
Bah à peu près, je l'ai commencé il y a à peu près 7 ans. Mm-hmm. Alors j'écris toujours plusieurs livres, si je puis dire, en même temps. C'est pas que je l'ai décrété, c'est que par moment, quand je m'arrête, quand je sais plus où aller, et ben plutôt que de désespérer, voilà, j'ai autre chose qui me vient ou qui est déjà entamée. Et puis les livres se répondent, c'est-à-dire le blocage d'un livre peut enseigner quelque chose mm-hmm. sur un autre. Mm-hmm. En l'occurrence, je crois qu'un des aspects importants, il y en aurait d'autres. Il y en a de liés à l'écriture. Il y a des choses qui m'échappent tout à fait. Bon, mais j'ai le sentiment pour un livre comme celui-ci ou d'autres, enfin mes livres peut-être en général d'ailleurs, que je suis souvent face à ce qu'on appelle des mythes, ou en tout cas des configurations fictionnelles comme ça, produites en général par le pouvoir ou en tout cas par des institutions puissantes.
D'ailleurs, je vous citais hein, en tout début d'émission quand je disais les vies subissent l'attraction du mythe, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Il y aurait le mythe ou la mythologie qui aurait une force qui aspirerait la narration des vies.
Oui, c'est ça. Et je pense qu'on n'a pas de méthode pour échapper à la mythologie, à l'idéologie, en somme, pour la nommer un petit peu autrement. Tout simplement parce qu'on baigne dedans. Elle est en quelque sorte au-delà du performatif. Vous voyez, le performatif d'Austin qui fait qu'on dit que vous êtes marié, vous l'êtes. Bon, ça, c'est une chose. Mais non, là, c'est dans les faits. Au fond, c'est ce qui a lieu. Mmh. Ça se confond avec le monde, avec l'existence. Et on peut pas on peut toujours le sous-estimer, mais ça nous rattrape toujours. Mmh. Et je crois que l'écriture tente, au fond, de trouver des brèches, des anfractuosités dans cette chose qui est en elle aussi, à laquelle, finalement, on n'échappe jamais tout à fait.
Et ça, ça prend du temps. Pour en revenir au plus ou moins 7 ans d'écriture.
Oui, je pense que ça prend du temps. En gros, Billy, voilà, une expérience que j'ai faite qui m'a troublée, c'est qu'au départ, je me retrouvais face à un personnage, un personnage tout fait, un mythe mondial, donc il y avait beaucoup de choses.
Un slogan, presque.
Voilà, Billy un slogan, il y avait plein d'événements, si vous voulez, plein de photos, soi-disant, qu'on lui prête, mais en fait, qui sont tout à fait incertaines, enfin, beaucoup de faits. Et puis, plus je m'approchais des faits, plus ils disparaissaient. Mmh. Plus je m'approchais de ses déterminations, et plus elles s'évanouissaient. Si bien que le travail était l'inverse de ce qu'on s'imaginait de celui d'un écrivain, c'est-à-dire de fictionner. Il se vidait, comme dirait Barthes, il se désépaississait. Mmh. Et à un moment, je me suis trouvé presque moi-même orphelin de mon récit, à me dire, bon, mais où vais-je aller avec quelque chose comme ça, où il n'y a plus personne, finalement. Et puis, j'ai laissé passer du temps, et je me suis aperçu, en relisant ce que j'avais écrit, qu'en fait, non, il restait quelque chose. Il restait d'abord des déterminations concrètes, réelles, c'est-à-dire Billy était devenu un jeune homme pauvre, un jeune homme précaire et pris dans une vie, disons, de saisonnier du crime. Mmh. Et tout ça, c'était resté. Mais du coup, il était plus seul. Mmh. Puisqu'il était plus chargé des oripeaux du mythe, il devenait un petit brigand parmi d'autres. Il appartenait à une génération, à un espace. Et finalement, ça le rapprochait de moi, de nous, et ça me le rendait plus touchant.
Je vais lire le début du chapitre qui est « Naissance » au pluriel. Si l'on veut essayer de comprendre Billy, si l'on veut apprendre à parler couramment le kid, la langue que fut Billy the Kid, si l'on veut parler sa vie comme une langue maternelle, alors dans un premier temps, il faut peut-être se résoudre à ne lire aucun livre. Il faut seulement se tenir dans le petit vent frais, là où l'on est seul et pauvre, et comme très loin de soi. C'est là que se tient Billy, le petit sauvage. C'est là qu'il écrit ses thèses de sang et griffonne dans le sable ses petits mémoires de sagouin. C'est là qu'il torche sa vie et la nôtre à coups de carabine, sale Billy. Il connaît toute l'histoire du monde et il ne sait rien. C'est ça être orphelin. Tout savoir et pourtant ne rien dire et se tenir seul et froid dans son pauvre rayon de soleil. Il mendie Billy. Nous n'avons rien à lui donner. Rien. Tous les mots écrits subissent le même sort. Nos bibliothèques sont une collection de cris étouffés, catalogues d'abois contrepesés, expurgés, polis. On ne peut pas étudier Billy. on ne peut ni le retranscrire, ni le raconter. Billy, c'est une poignée de sable dans les yeux. Avant Jesse James et Billy the Kid, il n'y avait pas de vrai sang sur les planches. Richard III est un voyou splendide, mais Billy est un pauvre idiot. À l'Ouest, ils ont inventé ça, la poussière. Les yeux éblouis par un soleil miteux, la mort vaine. Il faudrait écrire une lettre d'amour pour raconter l'histoire de Billy, mais on ne le peut pas. Il est mort bien avant Rimbaud, plus jeune que Mozart, plus jeune que Büchner, plus jeune que tout le monde. Il est mort à 21 ans, personne ne l'aimait. Au début de votre livre, Éric Vuillard, on est au deuxième chapitre, si je ne me trompe pas. C'est presque un impossible, en fait. Billy the Kid, il ne peut pas se raconter. Et vous racontez aussi, vous écrivez que tout est presque trop... Enfin, rien n'est sûr. Tout ce qu'on écrirait, ce serait presque trop solide pour lui.
Oui, alors, finalement, d'un côté, rien ne peut se raconter. C'est toujours ça. Les mots et les choses, il y a un divorce. Mm. Et pourtant, il faut bien le faire. Et donc, écrire, c'est un peu toujours se battre contre ce qui refroidit, ce qui euphémise, ce qui détruit la vie. Mais dans le cas de Billy, c'est aggravé par le fait que il a finalement rien à se mettre. Il vient d'un taudis sans doute de New York, mais on connaît pas son lieu de naissance. En tout cas, il est incertain. Sa date de naissance est incertaine. Son nom, sa mère, etc. Donc il y a vraiment tout est évanoui, disparu. Et puis sa position sociale, sa vie a été écrite par son assassin. C'est tout de même une position bizarre. C'est en principe pas le destin de tout le monde. C'est pas un statut narratif tout à fait commun. Mm-hmm. Donc on a là, en quelque sorte, une vie vraiment dépourvue d'appui, mort très jeune en plus, donc évidemment sans généalogie à la suite, sans personne pour soutenir sa mémoire, autre que des gens qui ont été ses adversaires les plus...
dans les
plus
bagarres.
Voilà, si bien qu'on est, on croyait se trouver face à un criminel et on se trouve face à quelqu'un d'une très grande fragilité, face à une silhouette isolée.
Il y a quelque chose que vous essayez d'attraper, Éric Vuillard, d'ailleurs au début comme à la fin, c'est la voix. Les gens meurent, et parfois ils meurent vraiment n'importe comment, dans la poussière, dans une bagarre, où ils se sont insultés, presque comme disons, dans une sale cour d'école, quoi. Mais il y a quelque chose des mots qu'ils ont prononcés qu'on pourrait répéter, Éric Vuillard. Et ça, j'ai été très touchée par ça, parce que c'est comme si vous réussissiez par la littérature à récupérer quelque chose de la voix, et peut-être même quelque chose de la voix de la jeunesse, il est tout jeune, voire de l'enfance.
Oui, alors, en effet, tout d'abord, ça vient, je pense, du fait que dans ce livre, j'ai eu cette impression d'effacement. Mmh. Et cette impression d'effacement,
tous
en approchant de Billy, et comme il était très jeune en plus, plonge inéluctablement vers l'enfance, c'est-à-dire vers sa propre enfance. Mmh. Or, quand on regarde son enfance autour des quelques souvenirs, des blocs de souvenirs très constitués, répétés, qu'on nous a racontés, etc., eh bien, très vite, on s'aperçoit que tout est brumeux. Et l'impression, je crois, qui domine, même dans la recherche du temps perdu, au début, à Combray, c'est cette impression de brume. C'est en tout cas à elle que Proust nous renvoie, et non pas aux souvenirs pleins...
solides.
Voilà, et solides. C'est plutôt à cette impression fantomatique. Et alors, la voix, alors je crois que ça vient d'abord d'une expérience personnelle. C'est-à-dire, il me semble, je ne sais pas si elle est partagée, que pour les gens qui sont décédés, que j'ai connus, une des choses qui me reste d'eux le plus fort, c'est la voix par moment. Je me souviens d'un éclat de rire, d'un ton. Pas forcément de ce qu'ils ont dit, mais d'un ton de voix. Ça me revient par moment comme une cicatrice, une chose qui est restée en moi. Et alors... dans le livre sur Billy, c'est venu plusieurs fois, mais au moins une fois au départ, avec le petit procès-verbal et cette parole à la fois commune et horrible, où Billy aurait dit à Cahill, enfin, ils se seraient eux deux injuriés, et l'un aurait dit à l'autre « macro », et l'autre l'aurait traité de « fils de pute ». Et cette expression de « fils de pute », si laide, si triste, je me suis dit tout à coup... Enfin, je l'ai écrit, j'ai écrit le passage et je l'ai terminé là-dessus, de façon abrupte. Et en terminant, après, je me suis dit, comme si l'avoir fait m'avait peut-être appris quelque chose, que c'était un petit peu comme quand Lévi-Strauss parle de l'interdit de l'inceste. Vous voyez, quand un voyou, on lui dit ça, fils de pute, quand quelqu'un qui est totalement désorienté ou seul et isolé, ça déclenche en lui une violence extrêmement forte, en fait irrépressible. Et du coup, cette voix de Billy qu'on entend dans le procès-verbal, puisque il a beau ne pas être entre guillemets, c'est ce qu'il aurait dit, donc on entend en quelque sorte sa voix, c'est pas une lettre qu'il aurait écrite, non, c'est ce qu'il a dit, véritablement. C'est donc la seule trace, il y a un moment, dis-je, de son passage sur
et
Terre,
de son vivant, tangible, ouais.
Voilà. Eh bien, elle est touchante parce qu'elle est à la fois la sienne et à la fois celle de n'importe quel petit voyou perdu dans le monde.
Ouais. Et puis, fils de pute pour des orphelins, du coup, ça donne aussi une dimension tragicomique à toute cette histoire. C'est vrai qu'en lisant le tout début, on a l'impression, en effet, d'une quasiment bataille éternelle de jeunes hommes qui s'insulteraient et qui se taperaient. Mais puisque vous commencez par l'expérience de l'effacement, c'est aussi un certain endroit, une certaine époque, cette guerre du comté de Lincoln, une certaine géographie aussi, et il est beaucoup question dans Les Orphelins Billy the Kid, justement d'une prétendue pas d'origine, d'un prétendu il y avait personne, c'est-à-dire que ces fameux orphelins et leur absence de généalogie, c'est aussi la fiction de ce qu'auraient été les Amériques quand ils ont, et je mets plein de guillemets, été découverts. Vous réfléchissez beaucoup, je trouve, à ce pays qui serait presque prétendument orphelin.
Oui, alors, effectivement, ces orphelins, ces jeunes gens, incarnent le colon par excellence, ouais. C'est-à-dire pauvres, ceux dont il est question dans le poème écrit sur la statue de la liberté, les rebuts du monde, avec lequel on fera la plus grande nation. Seulement, en réalité, leur destin à eux est tragique, il est extrêmement précaire. Et lorsqu'au contraire, on regarde ceux qui vont fonder cette nation, c'est-à-dire qui vont devenir qui sénateur, qui attorné général, qui gouverneur de l'État à sa fondation, eh bien, on s'aperçoit qu'on peut remonter très loin dans le temps. Et bien au-delà même du Mayflower, parfois. C'est-à-dire, quand on suit la généalogie...
Mayflower, qui est le nom de ce grand navire. Ouais,
absolument.
Avec le Mayflower Act.
Voilà, dans lequel, semble-t-il, bien des présidents des États-Unis trouvent l'un de leurs ancêtres, ce qui est déjà en soi problématique pour une démocratie égalitaire, etc. Mais... on voit qu'en suivant Chisholm, par exemple, qui est l'un des grands éleveurs de la région, qui va avoir affaire à Billy, eh bien là, on peut remonter jusqu'à la période élisabéthaine. On a donc d'un côté Billy, Hollinger, Jesse Vance, enfin tout un tas de petits garçons vachés qui sont sans généalogie, et de l'autre, en réalité, des gens qui viennent de l'ancien monde et dont la généalogie est très ancienne. Ce qui fait que
Et en même temps, au milieu de tout ça, Éric Vuillard, un pays qui, lui, n'est pas sans généalogie, puisque vous racontez bien que ce qu'on massacre, c'est ce qu'on appelle, dans un anglicisme, les natives, et que c'est la généalogie de ces terres. Eux sont la généalogie de ces terres.
C'est ça, c'est-à-dire que c'est venu, vous parliez d'espace, c'est venu de l'espace, en quelque sorte, ça. C'est-à-dire qu'il y a deux espaces dans le livre, et les deux m'ont frappé de différentes façons, mais reviennent au fond au même. C'est-à-dire, le premier, c'est l'espace du Nouveau-Mexique, un espace dilaté, immense, dans ce coin-là, les Mescaleros vivent une vie quasi vestigiale, là, puisqu'ils ont été massacrés, puis repoussés déjà dans des réserves, et jouent un tout petit rôle, au fond, dans les histoires qui sont, à ce moment-là, en train de se produire. Et donc, cet espace-là est une colonie au sens propre, c'est ce qu'on voit, c'est ce que j'ai vu encore aujourd'hui quand j'y suis allé. Quand on va au Nouveau-Mexique, on trouve encore sur le bord des routes des petites cahutes qui ressemblent pas du tout à ce qu'on peut trouver en France sur le bord de la route, qui sont vraiment des cahutes pauvres liées à un État dont la formation est encore en cours, en quelque sorte, ce qui paraît étrange pour la première puissance du monde, mais c'est pourtant le cas. Des mobilhomes partout, des gens qui n'ont de l'électricité que par des générateurs d'essence. Enfin, bon. Mais ce qui m'a le plus frappé, c'est sans doute Washington. C'est en me promenant à Washington, on a l'idée de Washington par les photographies. C'est fait pour être filmé, photographié, Washington. De loin, c'est très beau, ça mime un peu Rome ou Paris, on a des coupoles, des obélisques, des choses de ce genre, comme le pouvoir aime à en avoir, des colonnades. Mais quand vous êtes dans Washington, il y a quelque chose qui apparaît aussitôt, qu'on peut oublier, refouler, mais qui revient, c'est trop grand. C'est beaucoup trop grand, c'est trop long d'aller de l'obélisque au monument de Jefferson, c'est trop long d'aller jusqu'au grand temple de Lincoln, et puis alors d'aller au Capitole, c'est extrêmement long aussi. Alors pourquoi c'est si long? C'est parce qu'on avait de la place. Et quand on a de la place, évidemment on l'occupe, et quand on a de la place, c'est parce que c'est une colonie. Sinon, il faut raser une ville, et là, c'était pas le cas.
Ce qui vous fait écrire dans une formule si bien sentie, Eric Villard, il suffit de se promener quelques heures ou quelques jours à Washington pour se rendre compte que les États-Unis d'Amérique ou l'Amérique est une colonie posée à la va-vite sur des marécages. On va écouter Magali, auditrice du Book Club, elle vous a lu.
Bonjour le Book Club et bonjour Eric Villard. J'ai été ravie de le retrouver avec l'histoire de Billy the Kid. Il faut que vous sachiez qu'avant toute chose, on a vraiment l'impression de se retrouver dans le Far West. On voit aussi tous ces orphelins, anarchistes, qui essayent de trouver leur petit quotidien dans le grand quotidien d'un pays qui change constamment. J'ai trouvé plusieurs passerelles entre ce qu'est maintenant l'Amérique et l'ancienne Amérique. Et j'aimerais ardemment qu'Éric Villard puisse nous expliquer quelles sont les différences ou ce qui l'a enthousiasmé dans le fait de raconter l'ancienne Amérique pour expliquer la nouvelle. Merci beaucoup pour votre réponse.
Et merci à vous Magali pour cette lecture et cette question, Éric Villard.
Alors, une chose tout d'abord, c'est sans doute, j'étais surpris en fait par la surprise que l'on avait des agissements de Trump. Plus j'écrivais le livre et plus j'étais surpris par ça. J'étais surpris qu'on s'étonne de quelque chose qui est au fond, à certains égards, la quintessence de l'Amérique.
Mais vous, quand vous commencez à écrire, vous avez envie de réfléchir justement aux agissements de Trump acolytes?
Non. Non, non, pas du tout, je croyais...
C'est concomitant, en fait, quoi.
Ben, c'est-à-dire que j'ai pas de sujet au départ. Mmh. Duras dit quelque part, je vais où je peux quand j'écris. Et ben, moi aussi, je vais où je peux, je commence, je sais pas du tout ce que je vais faire, une chose m'intéresse, je commence à écrire, et c'est l'écriture qui, petit à petit, révèle des choses. Et donc, j'étais plutôt parti par un chemin de campagne, vous voyez, Billy the Kid. D'ailleurs, c'était pas Billy au départ qui m'avait attiré, mais la photographie qui est aujourd'hui en couverture du livre, c'est-à-dire Jesse Evans. Donc, je croise cette photographie, elle m'étonne à cause de l'insolence, en fait, que j'y trouve. Je me renseigne sur Jesse Evans et je tombe sur Billy, qui est déjà un mythe mondial. Donc, déjà, je suis plus tout à fait sur un chemin de campagne. Mais avec Billy, je pensais pas si vite arriver à Washington. Or, il se trouve qu'en deux intermédiaires à peine, enfin, un intermédiaire, on se retrouve aussitôt par les patrons, les grands propriétaires terriens qui emploient les petits vaqueros, on se retrouve aussitôt à Washington. Et c'est là que les réverbérations, disons, se produisent en quelque sorte malgré moi, et que je me dis évidemment, au bout de 4-5 ans à écrire le livre, que Trump n'est pas du tout, comme on le dit, une nouveauté.
Ni
une anomalie. Il est la quintessence, au fond, d'un aspect lié à la réussite, à une idéologie, au fond, qui est un des aspects centraux de l'idéologie américaine. Et donc, les grands propriétaires sur lesquels je tombe, Thomas Benton Catron, Axel, etc., et qui vont jouer un rôle très important dans le Nouveau-Mexique et dans la vie de Billy, disons, et de tous ces petits vaqueros qui vont en mourir, eh bien, sont des sortes de préfigurations du président actuel. Ce sont des gens qui ont tout pouvoir, qui poussent l'avantage jusqu'au point où ils le peuvent, qui font massacrer les Indiens, virer les squatteurs, et qui agissent à l'échelle, eux, de l'État du Nouveau-Mexique et se retrouvent ensuite sénateurs, représentants au Congrès. Et puis l'autre aspect qui m'est venu plus tard, le livre étant fini, c'est lié aux forces de police.
Bah oui, c'est ce que j'allais dire. Vous réfléchissez tellement au maintien de l'ordre dans ce livre-là.
Oui, j'avais écrit en le constatant que une fois que les grandes propriétés, les grands monopoles sont constitués, eh bien, que se passe-t-il? Les petits brigands deviennent inutiles et même dangereux, nuisibles. Il faut donc les intégrer au système, et donc on les intègre aux forces de l'ordre. Ils constituent les premières forces de l'ordre, et ceux qui n'y entrent pas, les réfractaires, ou ceux qui, pour une raison ou une autre, au fond, n'entrent pas dans la danse, eh bien, vont, comme Billy, être abattus. Et évidemment, quand Ice, récemment, là, donc, après la publication du livre, ou juste avant, a commis ses méfaits, qu'on s'est intéressé aux nouveaux modes de recrutement, de plus en plus rapides, de plus en plus sommaires, eh bien, j'ai vu une sorte de rapport, évidemment, de relation.
Je crois que j'ai lu juste avant l'émission qu'elle était en train d'être destituée, suite aux manifestations, Éric Villard. C'est pas la première fois, parce que vous aviez, je crois, fait avancer l'apparition, c'était la guerre des pauvres, en sentant qu'il y avait quelque chose, justement, de la réverbération, très beau mot que vous utilisez, entre ce texte que vous aviez écrit et ce qu'on a appelé la révolte des Gilets jaunes, comme si, oui, 100 ans après l'écriture, la cointance, on va dire, de votre écriture avec le très contemporain Éric Vuillard.
Oui, alors c'était...
Sans la chercher, ce serait.
Alors, c'était aussi une manière, là, plutôt de faire en sorte que le livre vienne se frotter au réel. Mmh. Le livre était écrit depuis longtemps, mmh. et il y avait un chapitre dans le livre, notamment, enfin, il y a un chapitre dans le livre, le soulèvement de l'homme ordinaire. Et tout à coup, il m'a semblé que le côté, d'abord, hétérogène du mouvement des Gilets jaunes, où on trouvait des petits artisans, des petits patrons, des ouvriers, des chômeurs, ressemblait, par son hétérogénéité, à ce qu'avait été ce qu'on appelle la guerre des paysans, et qui n'était pas du tout qu'une guerre de paysans, où on trouvait beaucoup d'étudiants, de petits artisans, et qui était un mouvement, lui aussi, pas homogène. Et puis, d'autre part, il y avait autre chose, c'est que la guerre des paysans, le soulèvement, était lié profondément au christianisme. Ces gens-là n'avaient de disponible à l'époque que l'idéologie dominante. Et ils se tournaient, au fond, vers la Bible pour dire au pouvoir ecclésial et au pouvoir temporel, vous n'obéissez pas à ce qui est au fondement de votre société. Mmh. Eh bien, c'est ce que faisaient les Gilets jaunes. Ils rappelaient la Constitution, la Révolution française, ils se promenaient avec le drapeau, disant, vous êtes en train, vous, Conseil constitutionnel, de bafouer les principes. Mmh. Et il m'a semblé que faire en sorte que le livre puisse se frotter à ça, eh bien, ça pouvait être pour moi intéressant.
Il y a des pages et des plages sublimes dans ce livre, Les Orphelins, une histoire de Billy the Kid, quelque chose qui me semble aller... on a parlé tout à l'heure de la manière d'être attiré par le mythe, le mythologique, mais là, qui vont vers le poème. Je voudrais qu'on écoute une archive de Pierre Michon dans l'émission Hors Champ en 2009, parlant d'une forme de poussée poétique de ses propres textes.
Je crois que la façon dont je les emporte dans le langage essaye d'être à la mesure de ce que fut leur vie, c'est-à-dire avoir l'éclat à la fois douloureux et joyeux qu'a toute vie. Je ne rends pas compte de quelque chose. Chacune de mes phrases n'est pas une recension de faits ou autre, mais simplement un essai de chant, un chant sur tel ou tel événement de la vie de tel ou tel. Tous les livres que j'aime sont faits de telle sorte que les faits rapportés comme la langue y résonnent comme des chants. D'ailleurs, je parlais tout récemment avec un musicien qui m'a dit que mes livres l'avaient en quelque sorte réconcilié avec la littérature. Alors que j'ai très peu, moi, d'oreille musicale. Tout ce que j'ai de musical s'est mis dans cette espèce de dévoiement de la langue que peut-être je fais. C'est un dévoiement parce que maintenant plus personne ne fait ça. J'ai l'impression que plus personne n'a pour but, en écrivant de la littérature, une visée purement esthétique. Purement esthétique, purement... Enfin, purement. La mienne n'est pas purement esthétique. Il y a aussi des faits trimballés dans cette affaire. Mais ces faits sont comme portés à une incandescence esthétique. C'est ce que je m'efforce de faire, en tout cas.
La voix de Pierre Michon, notamment auteur des Vies minuscules, mais aussi Rimbaud le Fils, à qui on peut penser en vous lisant, Éric Vuillard, il est ici en 2009 au micro de Laura Adler dans l'émission Hors Champ. Il parle d'un chant. Justement, il parle d'un chant, il dit « je fais autre chose que rendre compte des vies ».
En tout cas, oui, une phrase est un élan d'une certaine manière. On est livré à soi et à autre chose qu'à soi. Mais on cherche aussi à épouser l'existence d'un autre. Je songeais là en écoutant à Dickens, j'étais frappé en lisant... Le magasin d'antiquité, par le fait que, au fond, c'est un livre, si on veut, très linéaire. Il y a plein de péripéties. Mais on a ce personnage, la petite Nell, qui est menacée sans cesse avec son grand-père et qui fuit. Et finalement, ce qu'il y a de très fort dans ce livre, c'est l'écriture. Mmh. Mais c'est une écriture, alors, on pourrait dire, c'est une écriture... Elle a toutes les caractéristiques de l'écriture de Dickens. Elle est en quelque sorte naïve, un peu comme du Capra, si on veut, sauf que c'est un Capra très triste, etc. Bon, et puis, c'est une écriture à la fois descriptive, ironique, mais avec une forme d'emphase. Mais en réalité, elle est, c'est une écriture très concrète, très, qui nous permet de Enfin, c'est comme si Dickens parlait la langue du dénuement, parlait la langue de la misère, et que c'est, on était entraîné pendant 600 ou 700 pages dans un tunnel glauque, froid, et que c'était peut-être la seule expérience possible à travers le langage, au-delà même de la description, dans la langue, que nous puissions faire, nous, comme lecteurs, et peut-être donc Dickens comme écrivain, de la misère.
Oui, d'ailleurs, c'est quelque chose que vous utilisez dans ce chapitre que je lisais tout à l'heure, Éric Vuillard, parler de Kid, parler Billy comme une langue maternelle. Essayer de parler cette langue-là, ce serait essayer de parler la langue qu'aurait été cette vie avec tous les guillemets possibles ou les incertitudes possibles.
Oui, et aussi tenter de trouver une écriture qui puisse palpiter d'une manière qui, comment dire, qui nous place. Tandis que j'écris, ou tandis que peut-être l'autre lit, dans une position, dans un élan, dans un mouvement, qui tend à nous faire saisir peut-être quelque chose. Dans le passage que vous lisiez tout à l'heure du livre, je dis « Billy sait tout et il ne sait rien ».
Ouais.
Parce que, et ça, c'est une position qui est à la fois la nôtre et pas tout la fois, en tout cas qui nous apprend quelque chose. C'est-à-dire, au fond, il sait rien parce que lui, il n'a pas lu beaucoup de livres, il n'a pas étudié, il n'est pas devenu, voyez, professeur, bon. Mais il est livré à lui-même, seul, à partir de 14 ans, si bien qu'au fond, il sait quelque chose que nous ignorons.
Et il pose même une question quand un jour la mort vient. Il se demande ce que c'est. Le 14 juillet 1881, à Fort Sumner, trois hommes pénètrent de nuit dans un verger. On leur a signalé que Billy vivait à présent dans le ranch de Pete Maxwell. Garrett et ses acolytes avancent lentement vers la maison, sans un mot. Soudain, une silhouette se dresse entre les arbres. Les trois hommes ne font plus un geste. La silhouette porte un large chapeau, un pantalon de couleur sombre. On dirait Billy. Pat Garrett dut alors regarder de toutes ses forces, comme si sa vie entière tenait à cet instant dans sa ligne de mire. Il entendit une voix, là-bas, vers la maison. Mais l'ombre des arbres estompe les contours, l'épaisseur des feuillages étouffe la voix, et il ne peut la reconnaître. Garrett ressortit en silence du verger. Il se dirigea à pas de loup dans l'obscurité. Il faisait chaud. La chambre où dormait Pete Maxwell était ouverte. Laissant ses hommes devant la grande maison de bois, Garrett franchit le seuil. La pièce était obscure. Garrett avança dans le noir jusqu'au lit de Maxwell et il s'assit au bord. Il était près de minuit. Maxwell était couché. Garrett posa la main sur son bras pour le rassurer et lui demanda à voix basse où se trouvait le Kid. Maxwell lui marmonna qu'il avait dû traîner dans le coin mais qu'il ignorait s'il était ou non parti. À ce moment, une silhouette surgit dans l'encadrement de la porte en criant « Qui est-ce ?» C'était la silhouette aperçue auparavant dans le verger. L'homme entra dans la pièce, il avança lentement vers le lit, l'obscurité l'empêchant de voir Garrett. Il vint tout près et demanda à voix basse « Qui sont ces hommes, Pete ?» À cet instant, Maxwell murmura tout bas à l'intention de Garrett « C'est lui !» La silhouette recula rapidement dans la pièce, comme si elle se repliait jusqu'au bout des choses, et s'écria « Kenneth, Kenneth, c'est la mort, mon petit. » Alors, je lisais tout à l'heure un passage, Éric Vuillard, où vous dites « On est rendu à un endroit où on imagine, parce que l'histoire officielle a été obligée de s'arrêter devant la porte. Et c'est derrière cette porte que l'histoire en réalité a lieu. » Par exemple, cette scène-là, 81, et la mort de Billy the Kid, elle est imaginée. Dans cette tension que je viens de, j'espère, faire passer, cette tension romanesque et poétique que je viens de faire passer.
Alors, en tout cas, écrire, c'est toujours en tout cas de la littérature, faire une sorte d'enquête à partir de soi. Mm. C'est-à-dire que là, on a des témoignages. On a d'abord Garrett, évidemment, qui a écrit. Et puis, on a des gens qui étaient dans la maison de Maxwell, qui ont livré rapidement leur témoignage sur la mort de Billy, qui sont évidemment, comme d'habitude, en partie contradictoires. Voilà. Et mais du coup, c'est effectivement passé à travers quelque chose qui est à la fois la langue et moi, et qui, mais avec cette, j'ai l'impression, cette, comment dire, c'est pas ce sentiment que écrire, c'est peut-être qu'un, comme si un petit glissement qui pourrait avoir lieu suffirait à faire que ce qui lui est arrivé pourrait nous arriver à nous.
Mais c'est ça qui est bouleversant, c'est que cette façon d'être cueilli par la question et la réponse, qu'est-ce que c'est? C'est la mort, mon petit. D'un seul coup, on produit autre chose que la seule histoire de Billy the Kid. C'est quand même quelque chose qui, d'un seul coup, tient à notre, peut-être, condition de gamin apeuré devant la mort qui vient. Qu'est-ce que c'est, la mort, mon petit?
Oui, parce que c'est peut-être ça, lire, c'est compléter le récit qu'on est en train de lire par le sien propre.
Le book club continue et j'ai livré une bonne nouvelle fausse. Il n'y a que un retrait de ICE de Minneapolis. Il n'y a pas un démantèlement de la police de ICE. À cette heure-ci, dans le Book Club, on tient un agenda. Vous pouvez d'ailleurs nous faire parvenir via l'adresse mail de l'émission lebookclub@radiofrance.com toutes les nouvelles, bonnes cette fois-ci, qui concernent la lecture, l'écriture et les événements en lien avec le livre. Du 17 au 21 février prochain, à l'Alcazar, la bibliothèque publique de Marseille, s'organisent plusieurs événements festifs autour de l'auteur Claude McKay, poète, journaliste, écrivain et activiste politique noir américain, d'origine jamaïcaine, né en 1889 et mort en 1948. Cette programmation fait suite au don exceptionnel d'archives du poète Richard Bradbury à la bibliothèque. Les informations, tout le programme des conférences et des concerts à retrouver sur le site de la bibliothèque de Marseille.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Et à ce même mail de l'émission, lebookclub@radiofrance.com ou via le compte Instagram de l'émission, vous pouvez nous faire parvenir des pages musicales, à savoir tous les extraits de tous les livres de toutes sortes que vous êtes en train de lire et où vous voyez apparaître de la musique. C'est Aurélie, auditrice, qui a joué avec nous via le mail et qui nous suggère un extrait d'un livre qui s'appelle « Nos armes », paru en 2024 aux éditions Albin Michel et signé Marion Brunet. Après le braquage, je n'ai pas voulu savoir qui des copines et copains nous soutenait, qu'ils valident ou pas l'usage des armes à feu. Au procès, j'étais tellement tendue que je n'ai pas particulièrement noté qui, au fond du prétoire, était là ou pas. Devant le cimetière, alors que j'allais repartir derrière les murs de la tôle, j'ai pris conscience de ma solitude. Je parle d'une solitude intellectuelle, idéologique. Avec Vera, nous ne débattions pas. Et toi, Ben, qu'est-ce que tu deviens ? Je viens de rejoindre Notre-Dame-des-Landes. J'avais entendu parler aux infos, des infos tronquées et partielles, mais je savais entendre en retirant le filtre. Je lui ai souri. J'étais heureuse pour lui. J'aurais aimé repartir avec lui plutôt qu'avec les gardiens de la pénitentiaire. J'aurais adoré grimper dans sa Ford Fiesta, absolument dégueulasse, de la bouillasse plein les jantes et les portières, faire grincer les amortisseurs malgré mon poids plume, m'occuper de la musique pendant qu'il aurait démarré. J'aurais choisi un truc facile et grandiose, Guns of Brixton des Clash ou My Way par Sid Vicious. On aurait roulé jusqu'à Nantes et on aurait rejoint la ZAD par les petites routes.
And now the end is near and so I face the final curtain. You can't, I'm not a queer. I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, with each and every highway exit. Much more than this, I did it my way.
Ça me rend curieuse, toutes ces notes que vous avez prises pendant toute l'émission, Éric Villard, j'adore. Je serais bien curieuse de m'y promener.
Là, c'était cette chanson de Sylvie Schuss.
Je trouvais que ça marche ultra bien, franchement, avec tout ce qu'on vient de dire.
Tout à fait. Il est mort à 21 ans, lui aussi.
Ah, je savais pas.
Il est mort à 21 ans et je crois qu'il était livré à lui-même dans la rue puisque sa mère l'a abandonné à l'âge de 8 ans. Et on entend dans cette chanson, qui est sans doute une des plus tristes du monde, puisqu'elle est évidemment une reprise de la chanson qui a été rendue surtout célèbre par Sinatra, on entend quelque chose comme une violence sans retour du sous-prolétariat anglais, qui est une violence déchirante.
Merci infiniment, Éric Vuillard, y compris jusqu'au dernier commentaire des pages musicales. Les Orphelins, une histoire de Billy the Kid, apparue aux éditions Actes Sud. Julien Boulet, Dalia A, au son, à la réalisation, Vivien Demeyer, un grand merci à Lou Quevauvillé, Jeanne Aléos, Mathilde Wagman, Léa Weisgruss, Marianne Chassor, Julie Gastal et Alexandra Laïbegovic, qui animent la conversation sur le compte Instagram du Book Club.